Déambulation.
Le 10 mai 2014, la Bouèche Coopératif organisait tous en bottes. Équipé d'un micro de RDWA, je me promenais à travers les stands, interrogeant les exposants. Bonne écoute.
Pourquoi vous êtes ici d'ailleurs?
Parce que je suis une femme du Bouèche, une femme des Hautes-Alpes, que je représente la commission du film des Alpes du Sud. Nous travaillons sur deux départements, 0405. Nous partons à Cannes dans quelques jours, représenter nos territoires. Aujourd'hui, je suis amie d'Edia Garcif, je suis coopératrice de la Bouèche Coop et je suis déléguée. Donc, je fais partie de l'histoire et je suis très très heureuse d'être là aujourd'hui et d'apporter plein de choses au niveau image avec Brigitte Berberian.
Bonjour.
À la commission du film des Alpes du Sud. Je suis aussi présidente de l'association ALMA qui organise des stages de réalisation dans la vallée du Bouèche. Je suis aussi à Quasar, enfin je fais beaucoup de choses pour mon pays, pour mon département. Voilà. Et là, nous partons à Cannes présenter plusieurs films. Nous allons soutenir des amis, nous allons présenter des choses et nous allons surtout parler du territoire des Hautes-Alpes. Je salue au passage ma présidente Claude Bouliou. Je salue aussi ma directrice Nathalie Ponce. Et au nom de tous les miens, quoi. En tous les cas, nous sommes dans une belle région. Bravo Eddy pour cette belle journée. C'est une journée solaire avec beaucoup de lumière et un grand ciel bleu. Nous avons une assemblée générale tout à l'heure qui sera très importante pour l'avenir de la Bouèche Coop parce que moi j'y crois et quand Sonia croit en quelque chose, cela arrive. Merci.
Un vrai slogan. Je voulais savoir, la commission des films des Alpes du Sud, c'est établi où?
Alors nous avons deux bureaux, nous dépendons du conseil général 04 et 05 de la région PACA et de Films France. Nous avons deux bureaux, un à Gap rue de France et un à Digne au conseil général. Voilà.
Et vous avez un site internet, je suppose, pour venir
Absolument.
Vous voir?
Absolument, vous allez sur le site Commission du film des Alpes du Sud, que je gère, avec Nathalie, qui est mon alter ego. Commission du film des Alpes du Sud.
Donc tout va bien?
Oui, moi je vais bien. Bon. Et c'est pour ça que je suis à la Bouèche Coop, parce que je suis quelqu'un de positif. J'apporte ma couleur et ma lumière. Et les gens qui ne sont pas contents de cette SKIC association, moi je dis mais c'est SKIC, et ben je leur dis basta, stop, partez. Nous on reste.
Eh bien, moi, j'accompagne Sonia dans toute cette aventure extraordinaire avec une ouverture sur l'avenir.
L'éco-sociologie, qui est un thème qui est présenté ici aujourd'hui, le rapport avec le cinéma, ça va être quel pont?
Mais justement, l'écologie. Nous sommes dans un territoire merveilleux, naturel, préservé. Et nous allons le mettre en image, montrer notre beau pays. Parce qu'il faut savoir que quand on fait un film dans une région comme le Bouèche, les Hautes-Alpes, que ce soit Briançon, enfin, il y a beaucoup dans le nord du département parce qu'il y a l'or blanc, la neige. Nous, ici, c'est le Bouèche et le Dévoluy. Donc d'ailleurs, les projets de films que j'ai, c'est surtout dans cette région-là que je voudrais le faire. Et dans le sud des départements, et 04 aussi, Digne, j'y tiens beaucoup. Eh bien, nous voulons montrer tout simplement qu'on vit dans un pays merveilleux où l'air est pur. Et puis avec aussi un système écologique, donc de faire attention, de montrer les images. Et si par exemple on fait un film, que les gens aient un bon comportement par rapport au lieu. Donc aller chez l'habitant, manger bio, parce qu'ici il y a beaucoup de choses comme ça. Bah, vous, d'autre côté c'est pareil, je pense, du côté de Die, ils sont très ouverts aussi dans la Drôme. Hein. Ensuite, vous dire quoi, j'ai tellement de choses à dire.
Et alors, le cinéma, donc une vitrine du pays de Bouèche?
Ah, tout à fait, nous avons des images, oui.
Et quand même, vous c'est dans le but de faire venir des gens, venir vivre ici,
Vivre ici ou passer, oui, s'installer, ça serait bien, parce que c'est quand même... Mais c'est vrai qu'on a envie de voir un petit peu des gens de qualité, avec une certaine mentale, un certain esprit, quoi. Voilà, et puis de... oui, parce qu'il y a le Tour de France, c'est bien, le Rallye Monte Carlo, c'est très bien. Mais bon, on a envie d'autre chose peut-être.
Le carnaval de Nice aussi, c'est très bien.
Oui, c'est très bien, tout à fait. Oui, les citrons, tout ça, c'est très bien, oui. Tout est bien.
Les ferrières de Nîmes.
Oui, tout est bien, oui. Tout est bien. Mais voilà. Enfin, il faut faire attention au lieu, quoi. C'est très important, moi j'y tiens, ça. Moi, j'habite un petit village qui s'appelle Aspremont, une bastide très ancienne. On fait attention, on fait beau. Après, nous habitons au bord de l'eau dans un chalet en bois. On fait attention, quoi, avec des toilettes sèches, notre façon de manger, on fait nos courses locales, on ne va pas dans les grands magasins. On a déjà une démarche, une pensée naturelle, écologiste. Et là, j'ai une amie qui sera à Cannes, qui est quand même Madame Culture de la région PACA, qui est quand même Aïcha Sif. qui est une femme extraordinaire. Je dîne avec elle le 17 au soir. Et elle a trouvé que j'avais beaucoup d'énergie. Je trouve qu'elle en a beaucoup.
On ne peut pas le nier, hein.
Je pense que c'est l'air du bêche. Il faut dire que les gens sont tellement sympathiques. Donc on est open, quoi. On vient de parler physique quantique, on vient de parler spiritualité, on vient de parler de Dieu, enfin de la création.
Et alors justement, vous parlez de Dieu.
Ah oui,
de my Dieu God. Au pluriel ou...
Ah, des dieux, les dieux sont voilà. Avec nous.
Est-ce que les dieux viennent se reposer ici?
Oui, vous avez vu la montagne, elle s'appelle voilà. Saint-Apôtre. Il n'y a pas de hasard. La route de Dieu, c'est la route de Die. Même j'ai un magasin à ce moment, il s'appelle Diego, moi je l'appelle Dieu. J'y vais tous les jours. Entre la Bioscope et Diego, on ne me voit pas ailleurs. Après, bon, dans d'autres villes, mais d'autres villages.
Non, moi j'en veux encore un comme ça.
Bonjour.
Bonjour.
Oui. Je promène le micro là, à la journée.
Mais oui, vous avez
alors,
bien
vous,
raison.
Vous avez un petit stand de pâtisserie qui sont de quel pays?
C'est algérien et c'est fait qu'avec des produits bio d'ici, du magasin.
Que vous fabriquez et que vous êtes installé où d'ailleurs?
Alors c'est moi je fais partie de l'association L'Oreille que Eddie gère.
L'Oreille c'est à cause de la montagne à côté là.
Ouais, voilà, c'est ça. Et puis qui s'appelle comme ça aussi la montagne. Et ben aujourd'hui on fait des petits gâteaux pour l'association et pour nous montrer aussi. Voilà.
Et là vous servez et puis c'est une cagnotte pour l'association.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Et quelle est votre démarche en dehors de celle de faire de proposer des gâteaux? Vous faites autre chose aussi au niveau de l'association?
Oui, je suis aussi bénévole à l'UHCOP. Moi et toute l'équipe. On travaille à BUHFOP aussi. On est dans les deux.
D'accord. Et vous êtes du coin, donc installé depuis longtemps?
Oui. Oui, je suis de pas très loin de l'Aragne.
Je connais pas du tout le pays du Bouet.
C'est à un quart d'heure d'ici en voiture. C'est à un quart d'heure d'ici. C'est la plus grande ville qui est vers ici.
D'accord. Voilà.
J'aimerais bien un café, s'il vous plaît.
Oui, pas de merci. Problème.
Vous voulez vous faire tatouer ou...
Et oui.
D'accord. Et vous êtes venu ici pour ce qui se passait aussi?
Je suis avec la Bioscope. Mais oui, je suis plus en version touristique aujourd'hui.
Vous savez
je mets ma patte, mais...
On a une table de studio hein, au fond.
Oui, j'ai vu tout
si
à l'heure.
Si ça vous dit ouais. De passer, ouais. Ou alors on repassera vous voir sur votre stand.
Ça va.
Voilà, très bien.
Après, moi, je suis un peu... Pour vous expliquer, c'est un peu compliqué. Je suis un peu nouvelle et tout, donc...
D'accord.
Je ne m'avance pas trop encore.
Mais quelle est la conviction qui vous a poussé à venir ici?
Ça fait longtemps que je connaissais un peu. Et... C'est beaucoup la façon de penser surtout qui m'attire. Côté produit, oui. Mais voilà, une notion qui nous ramène à la nature. Je trouve qu'on a un peu trop perdu ça et que c'est intéressant de privilégier.
Mais vous avez été élevé dans... au niveau de la nature, vous étiez baigné dedans déjà, non?
Oui, j'aime bien ça. Plus que je suis petite, je trouve normal en fait.
Et vous avez failli perdre ça alors?
Oui et non. Non, on le perd jamais. Mais la société actuelle le perd. Donc je pense qu'il en va de l'éducation de nos enfants aussi, de s'éduquer soi-même. Voilà.
Bon, ben, peut-être à plus tard.
Peut-être,
hein.
Merci.
Et puis bon tatouage.
Oui, merci.
Oui, au revoir.
Tu me laisses une nuque là?
Ouais, toi. Juste, je dis, je m'approche comme ça. Je suis
c'est
là.
La nuque à l'arrière ou sur le côté?
Non, sur les côtés.
Là, sur les côtés.
Plutôt là?
Ouais. Après, je laisse à la. Voilà. Moi, comme j'ai pas la vision des choses et que j'ai confiance. Oui, c'est mieux avec sans ça. Oui,
c'est pas une question tellement de vision, c'est aussi une question de douleur. Tout ce qui est là, t'auras pas mal.
Ouais.
Parce que là la nuque. Ouais. C'est l'endroit, quand on a peur, quand on a mal, on fait ça. Ça ouais. Veut dire que tu dégages cet endroit qui est fait pour prendre des coups, en fait.
D'accord.
Donc là, on a pas mal, vraiment. Ah. Hein.
Mais ouais, quand ouais, vraiment, non, mais vraiment. Je crois vraiment.
Contre, si je descends, tu vois, là.
Ouais.
Là, je suis sur les tendons.
Ouais.
Et là, les tendons, du coup, là, ça fait mal.
Ouais.
Donc ce qui serait bien, c'est qu'on n'arrive pas jusque-là. Donc, ou alors, par là. Ouais, on va la poser, on va la voir, mais il faudra raser un petit peu.
Ouais, il faudra voir un petit peu. Mais ou si ça va mieux de l'autre côté, ou n'importe si on laisse ça dans ton jugement, ça va beaucoup. Mais après,
que j'ai pas une appréciation vraiment de la douleur. Oui, j'ai mal, c'est pas grave.
J'entends pas très mal.
Ce que je veux dire, c'est que effectivement, j'aime mieux si c'est un peu plus derrière que devant.
Moi
plus pas trop par rapport à la douleur, mais par rapport à l'esthétique, j'aimerais mieux moi personnellement. En fait.
L'esthétique et puis, voilà. le visuel du commun des mortels. Voilà, c'est-à-dire aussi, le banquier, quand il te regarde, il faut pas qu'il soit.
Je veux pas qu'il voit que le cul de la libellule.
Exactement, c'est tout à fait ça. Justement, ça a l'air poussé un peu.
Ou alors, on la met à l'envers, on lui met la tête.
Là, tu vois pas, là. Ouais. Faut la raser un petit peu.
Oui, oui, non, mais c'est pour.
Non, là, ta libellule, elle est à l'envers, mon chéri. Elle peut pas faire ça. Voilà, elle peut faire ça. Ça, c'est mieux. Ouais, ça va être bien. C'est bien, j'ai le droit. Je travaille tout fin, les ailes toutes gris, clair.
Voilà, tu as vu ce qui me plaît. Et après, franchement, j'ai vu ta patte. Et ça fait longtemps que
je très bien.
Juste sur les marchés comme ça généralement.
Pour le plaisir.
Ouais, voilà.
D'accord.
Je joue comme ça, j'ai pas spécialement de.
Et vous êtes du pays du Bouëch aussi?
Ouais, je suis de Aspremont.
Vous en vivez de la musique?
Bah pas vraiment. Moi pour l'instant je suis lycéen, donc. Bah en fait je gagne un peu pour mes frais personnels, quoi. J'essaye de gagner un peu l'essence, le tabac, des trucs pour.
Et vous avez joué au dehors de ce pays ou vous allez ailleurs?
Bah. Quand j'étais petit, j'ai fait un peu des concerts avec, avec ma famille, avec d'autres un peu. Je jouais de la musique en groupe et puis bon, c'est un peu compliqué. Et la musique maintenant, c'est surtout pour le plaisir, quoi, pour gagner un peu ma croûte comme ça et puis pour le plaisir.
Et Bruno, est-ce que par exemple, des festivals comme la Nuit Folk de Châtillon, vous y iriez?
Bah, je sais pas, si on me proposait, si jamais, peut-être. Mais franchement, enfin, pour moi, la musique, c'est surtout comme ça.
Un plaisir,
parce que j'ai d'autres passions à côté. Et j'ai assez fait de la musique quand j'étais jeune pour savoir que vivre de ça, c'est compliqué. Quoi.
C'est prévu pour une force de pénétration.
Ça, si tu veux. En fait, c'est très simple, il y a un rapport entre de puissance, en fait, tu vois, le fer de la hache, c'est petit, c'est relativement lourd, et en manché sur un manche comme ça, là, si ça te parle, que ça te prend à l'épaule ici,
tu tires,
après, ça va rentrer un peu, mais l'onde de choc, ici, là, à travers, là, tout ça, c'est pulvérisé, c'est cassé, c'est broyé.
Tout ce qu'il y a là.
Ah, ça te rentre ici, là. À peu près jusque là, mais l'onde de choc, juste toute la cage thoracique, les os, c'est pété, c'est cassé. Donc le fait de ressortir, toi, si je t'ai impacté, tu vas pas mourir tout de suite, hein, dans 5-10 minutes peut-être, mais tu vas mourir, tu vois. Quand tu tombes à la renverse, je te remets pas un deuxième coup pour te finir, ça sert à rien, je passe au suivant. Donc zbim, bam. Et je rattaque sur quelqu'un d'autre. Et là, si tu veux, et même avec une main, tu vois, si je viens, tu vois, t'es loin de moi. T'es loin de moi. Et ça, même si tu le prends sur le bord ici,
c'est,
ça ressemble. Tu vois, c'est pas très. Mais prends simplement juste pareil. Tu vois, ici, c'est une chose. Mais prends-le simplement là pour avoir un peu l'idée juste du poids que ça peut faire.
Ouais, ça, c'est.
L'inertie de l'arme. C'est comme la masse d'armes qu'il a, Mike.
J'aimerais bien envoyer avec toi quelqu'un.
La masse d'armes, c'est pareil. Là, le collègue, il se promène avec sa masse d'armes. La masse, Mike. C'est... Ouais, Mike, c'est une petite masse-note. Ouais, c'est pas très gros en bronze, pointu, ouais. Mais c'est l'inertie. L'inertie, ça te fracasse. Tu prends un coup sans un casque comme ça, ton cerveau, il éclate. Splouch. Ça te... Brave.
Ouais, ça te fracasse tous les os. Et...
Voilà, là, je suis sans casque.
Elle t'ouvre en deux. La masse, c'est pareil, tu vois, regarde.
Prend juste par là. Là, bout de bras. Là,
c'est ça qui pèse.
C'est l'inertie. Et ça sert à rien d'avoir des armes lourdes, parce que, je veux dire, tu te fais une tendinite en l'utilisant. Il faut qu'elle soit assez légère pour pouvoir bien la manier.
Et ça, les pointes, c'est là.
C'est percutante.
Une pointe, quand elle va aller frapper sur le casque, ça enfonce la ferraille. Donc là, à travers le casque, tu te fais quand même pulvériser la gueule. Là, sur un bras comme ça, tu lui demandes à lui, hein. Il l'a vécu ça, une masse d'armes comme ça, simplement, à tomber comme ça sur l'avant-bras.
Ouais, c'est pas le métal qui m'a touché, c'est le bout du manche. Le bout du manche.
Rien que le bout du manche.
Ça m'a fêlé le mérus, là, sur 5 cm.
Et c'était pas un coup porté violent, hein.
Ouais,
c'était retenu.
Dans l'action.
Alors,
c'était tout pas fait intentionnellement pour frapper. Et il l'a tapé avec le bout du manche. Fêlé sur 5 cm. Donc imagine, le frère, ça arrive ici, là. Quand on craque.
On va les manger. Et comme j'ai besoin d'un couteau pour couper ma viande, je prends celui-là. Tu crois que ça va suffire? Hein?
Oui.
Oui. Si tu le dis alors. T'as vu, c'est fait tout à la main, ça? Ça, c'est moi qui l'ai refabriqué. Et de l'intérieur, tu as une lame en bois. Tu vois? Je peux pas le tordre, celui-là. Ça, c'est des épées qu'on porte à cheval. Vous ne pouvez pas les porter à pied. Parce qu'après, un piéton, quand il tombe comme ça, s'il a un truc comme ça, ça lui remonte ici dans les côtes. Il brise 3 ou 4 côtes. Là. C'est pour ça que les piétons, ils ont des épées et surtout ce qu'on appelle des fourreaux avec une âme en cuir qui se torde. Comme ça, quand ils tombent, là, ils se font pas mal. Tu vois, ça, c'est souple.
Dans la jambe, là, tous les genoux.
Il y a plein de petites différences comme ça.
Et les portes, on vient la porter comme ça, parce que si on la porte comme ça...
Ah, l'épée, elle est toujours portée, normalement, elle est toujours portée droite. Elle est toujours portée comme ça. Rarement inclinée. Après, tu l'inclines sur le cheval pour pas que ça touche le flanc quand tu vas au galop. Voilà.
Bonjour Lane.
Tu vas me la faire aller ?
Quand tu auras fini de manger ? Et tu penses quoi de la journée ? Bon, bah je repasserai plus tard.
Salut.
Oui.
Cette collection. Bonjour, vous vous appelez comment?
Je m'appelle Elodie.
Elodie, et donc Elodie, vous présentez quoi?
Alors en fait, je suis créatrice de vêtements recyclés. Je travaille sur l'éthique et le responsable. Je fabrique des vêtements à partir de vêtements qui existent, de tissus que je récupère en brocante. Je ne fais que des pièces uniques.
Oui.
Pour les enfants, pour les femmes, un petit peu pour les hommes. Là, en ce moment, je fabrique des hauts avec des cravates que je couds ensemble. Ça fait des dos nus. Et je suis sur une collection du tablier révolté. Parce que le tablier, on le conçoit souvent dans la cuisine. Et donc là, j'ai travaillé le tablier version un peu sexy.
Ah, c'est-à-dire alors?
Alors, un lassage corsé dans le dos,
oui.
Et un contour de poitrine pour les bretelles. Alors, voilà, avec des poches pour...
Et j'en vois pas de modèle là où...
Alors juste là. Donc les petites bretelles avec le corset qui passe dessous la poitrine. Et derrière, ouvert avec le lassage pour faire un côté sexy. Sexy d'accord. Parce que la femme, elle assume sa féminité. C'est même si c'est sur un tablier.
Est-ce que c'est un style de femelle hein?
Ça peut... Bah oui, parce qu'on met la poitrine à l'air du coup.
Oui.
Et donc la boutique s'appelle Chakia Shop.
Chakia Shop, oui. Vous me trouvez sur internet, oui. Et dans la région PACA sur les événements éthiques et responsables, ainsi que sur les petits festivals de musique.
Et ça fait combien de temps que tu fais ça, toi?
Cet été, ça fera déjà 3 ans.
3 ans, d'accord.
3 ans de création recyclée.
Tu t'es installée où pour pratiquer cette activité?
Alors j'habite à Marcoux, qui est un tout petit village au-dessus de Digne, dans les Alpes de Haute-Provence. Voilà. Mais j'habitais en fait la vallée du Bouèche il y a 5 ans de ça. C'est comme ça que j'ai atterri sur l'événement.
Ah voilà, c'est par cette connaissance.
Voilà, c'est par Eddy, par la Bouèche Coop. Oui. Je faisais partie, j'étais adhérente à la Bouèche Coop.
Tu utilises que du matériau de récupération, fil compris
Non, il y a la mercerie, le fil et tout ce qui est billets et rubans. Je l'achète au mercier de Digne, donc dans le local. En revanche, tout ce qui est boutons, je les récupère. Boutons, fermeture éclair, élastique, je récupère. Et les tissus, bien sûr. Les tissus, que ce soit sur des vêtements existants ou des morceaux déjà... Les brocantes sont dans des mines d'or.
T'as eu une formation au niveau du stylisme ou de la confection?
En fait, j'aurais bien voulu dans ma vie faire une formation, mais l'éducation nationale ne m'a pas ouvert les portes. Donc à 32 ans, j'ai décidé de me lancer. Et sachant que ma maman m'avait appris la couture quand j'étais toute petite, voilà, je me performe au fur et à mesure de mes créations.
Ça marche bien comme
heureusement que nous sommes en France. Hein.
Oui.
Ouais.
Il y a du goût pour des fantaisies, parce que c'est assez fantaisie.
Tout
au
à
niveau,
fait.
Au niveau couleur, c'est très bariolé.
Il y a aussi des motifs originales.
Japonais un peu sur les vêtements. Ça, c'est des pièces qui viennent d'où, par exemple, ce motif japonais là?
Eh bien, d'un kimono japonais.
Oui.
Traditionnel. En fait, mon parrain est japonais, il m'a ramené quelques kimonos que j'ai recyclés, qu'il avait trouvé en brocante et dans ses armoires, que j'ai recyclés pour en refaire des kimonos version occidentale avec des tissus qui proviennent de là-bas.
Tu fais souvent, donc, tu disais, des tournées aussi pour des festivals, des concerts.
Oui.
Tu te promènes sur tous les territoires possibles?
Toute la région PACA.
La région PACA, tu t'arrêtes à la région PACA, tu vas pas en Rhône-Alpes.
Pour l'instant, je n'en ai pas eu encore l'occasion, mais ça fait déjà beaucoup d'activités en fait en région PACA.
Oui.
Je pense qu'il y a une émergence qu'il faut créer, il y a quelque chose qu'il faut développer et on essaye.
Est-ce qu'il y a une ramification qui s'opère un peu entre concepteurs?
J'ai l'impression que de plus en plus,
oui.
Et les nouveaux modes de communication font qu'on se rejoint, qu'on se retrouve, qu'on se rencontre. Qu'avant, on était un peu perdus dans nos territoires. Donc là, moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle la Calunique, collectif d'artisantistes locaux uniques. On est de la région PACA, il y en a dans le Var, il y en a dans le 13, dans le 04, dans le 05. Et on travaille tout ce qui est recyclage et matériaux éthiques. Donc on va avoir un jeune homme qui fait des photos argentiques encadrées dans des fenêtres en bois. Un artiste peintre qui fait des salons éphémères. Des salons qui, il les repeint lui-même, les salons. Oui. On a un jeune homme qui fait du crochet avec de la laine qui récupère, ainsi que des dreadlocks au crochet. Et une artiste peintre qui fait aussi des tatous temporaires bio. Je suis pour les couvertures sociales. Donc je cotise, je suis déclarée et...
Tu es déclarée en tout
auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur et comme j'ai 2 enfants, ça me permet de gérer mon temps en même temps, d'être disponible pour elle et de pouvoir travailler en même temps. Et de vivre de ma passion pratiquement.
Est-ce qu'il y a un site internet avec une adresse précise?
Tout à fait. Vous me trouvez alors sur Facebook, à Chakia Shop, ou alors sur une boutique en ligne qui s'appelle A Little Market. Très voilà. Bien. Et j'ai un blogspot, chakiashop.blogspot.com.
Alors Chakia Shop, c'est-à-dire S-H-A-K-S-H-O-P. Voilà. Quelle est la motivation, justement, depuis quand tu es motivée pour l'écologie, l'éco-citoyenneté, la sociologie?
Je pense que ça a été depuis toujours. Et en fait, c'est au fur et à mesure du temps qu'on grandit, qu'on s'implique de plus en plus. En fait, j'ai démarré la couture parce que j'avais pas beaucoup de sous, donc j'ai commencé avec mes armoires. Et finalement, je me suis rendu compte que la mode éthique était quelque chose qui me correspondait totalement. C'est pour ça que j'ai continué à fouiner, à récupérer... à solliciter les gens pour qu'au lieu de qu'ils jettent dans l'ébène, c'est de toujours. Et puis je me suis rendu compte que finalement c'était de vraies valeurs. De vraies valeurs qui me correspondent.
Et oui, des vraies valeurs. Et est-ce que tu te sens aidée ou secondée par des institutions ou des collectivités justement sur ton travail?
Et ben moi j'ai été vraiment épaulée à 100%. Par justement, comme je suis au RSA, par les assistants sociaux, qui ont vraiment cru en moi, qui m'ont donné la possibilité d'avoir un véhicule plus grand, qui m'ont aidé au niveau de l'administration, parce que bon, la paperasse, c'est pas ce qu'il y a de plus simple quand on veut créer une entreprise. Et je me suis sentie beaucoup épaulée, oui. je pense que je suis tombée sur des bonnes personnes. Après, je suis dans une région, je suis dans les Alpes de Haute-Provence. Voilà, c'est, le social, c'est assez émergent. Et quand on a la patate et qu'on le montre, il y a des personnes qui sont là à notre écoute pour nous...
Qui vous suivent.
Tout à fait. Ouais. Avec l'ADI, je travaille avec l'ADI aussi, qui m'ont permis de faire un microcrédit à zéro pour avoir un véhicule plus grand. Voilà, c'est une opportunité qui est vraiment très bien.
Et ça, c'est typique à la région. On ne peut pas forcément retrouver ces structures à chaque région.
Je pense. Je pense que dans chaque région... Moi qui suis originaire des Alpes-Maritimes, je pense que dans les Alpes-Maritimes, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi. Voilà, on aurait préféré que je travaille en tant que salariat, que je ne me lance pas et que... Alors que là, on m'a quand même, comme il n'y a pas beaucoup de travail dans notre région, en fait, ils aident vraiment les auto-entrepreneurs à que ça marche, quoi. Voilà. Et la solidarité entre créateurs, c'est très important. Donc que chacun se donne ses bons plans. Si on a besoin d'un coup de main, on est là. On coopère et on est solidaire. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est comme ça qu'on arrivera à changer un peu les choses.
Voilà. Et je vois que tu crées des vêtements pour tous âges. Hein.
Oui.
Particulièrement féminin quand même, non ?
Particulièrement féminin, parce que pour moi c'est difficile de coudre pour un homme, parce que je suis moi-même une femme.
Oui.
Comme c'est difficile, moi qui suis toute petite, oui, de coudre pour une personne qui est grand ou qui fait une taille qui est un peu plus importante. C'est vrai que des dames qui font des grandes tailles me demandent souvent des créations, mais pour moi c'est très difficile parce que je n'arrive pas à me projeter dedans. Donc c'est vrai que c'est... Et là, par exemple, pour les enfants, j'ai fait beaucoup de robes filles parce que j'ai deux filles. Voilà, mais j'ai pas fait de pantalon pour garçon, parce que j'ai pas de garçon. Ça viendra, je pense. Mais de mon envie et de mon inspiration, ça part souvent de ce que j'ai dans la tête, de ce qu'il y a autour de moi.
Ça, c'est pas...
Alors
moi,
ça,
c'est
en fait,
quoi, par exemple,
ça c'est des bretelles à poche et à capuche. Donc ça se porte par-dessus un t-shirt.
Oui.
On a deux poches latérales sur le côté et une capuche amovible pour la tête. Voilà.
D'accord, des trouvailles. Hein.
Une invention.
Merci Elodie.
Merci beaucoup.
À la prochaine. C'est vous Lionel ?
Ah, c'est moi, oui.
Vous participez en tant que quoi, justement ?
Alors nous, on est producteurs de coussins et oreillers biologiques en Ardèche. On travaille beaucoup avec la laine. Et en fait, on a connu l'événement qui n'est pas tout près de chez nous, mais un peu par hasard, parce qu'on vend nos oreillers dans l'hôtellerie. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est arrivé à connaître l'organisateur ici, puisqu'il possède en fait un hébergement. Donc... Et puis il nous a invités gentiment donc, à cet événement, et donc on est là, voilà.
Et vous vous appelez comment, vous ?
Alors moi, je suis Lionel Mestre, et je travaille avec mon épouse, Milena Mestre. Donc c'est une entreprise familiale, on produit de manière artisanale nos coussins et nos oreillers.
Et depuis combien de temps vous faites ça ?
Ça fait, on a commencé à peu près 2 ans, en 2012, donc jeune entreprise.
Vous étiez déjà installé en Ardèche quand vous avez commencé...
Alors,
cette entreprise ?
Non, parce que nous, on a un peu voyagé, avant on était en Serbie, on est un peu baroudeur. Et moi, je suis originaire de l'Ardèche, donc j'ai passé mon enfance ici, donc je suis revenu un peu aux sources pour m'installer.
Alors comment ça se passe pour justement concevoir vos produits ou votre... Comment on pourrait appeler ça ? Une production une...
Non, la laine, on l'achète, en fait, c'est des moutons français, donc elle est produite en France, mais on l'achète en Belgique, elle est lavée en Belgique, parce que là, ils ont vraiment... le secteur de la laine en France a été vraiment dévasté, c'est difficile maintenant de trouver des laveries de laine en France, donc il y en a toujours qui existent, mais bon, pour la qualité qu'on recherche, on travaille avec une laine sous une forme particulière, c'est une forme de boule de laine, quoi. Qui est en plus qui reçoit des traitements écologiques pour être lavable en machine, elle peut se sécher au sèche-linge, ce qui est important dans l'hôtellerie, parce que nous on travaille beaucoup avec l'hôtellerie, et donc on achète la laine en Belgique. Elle vient du nord de la France.
Vous concevez ensuite un habillage soit pour être en coussin ou alors en oreiller aussi.
Voilà, donc on travaille, nous on est en bio, donc on travaille avec du coton bio. Et notre entreprise est certifiée par Ecocert. On travaille avec un tissu qui s'appelle GOTS, en fait, c'est une certification pour le tissu biologique.
Qui est issu de quel endroit justement, ce... Alors, tissu
De Turquie. Coton, c'est du coton bio de Turquie, dans la région d'Izmir. Et c'est vraiment un super coton, et on travaille donc avec ces tissus qui sont en bio. Et nous, après, on travaille sur différents produits. Alors, on a des produits qui sont assez simples, comme l'oreiller. Bon, ben, c'est juste une housse assez simple. Mais après, on a des produits plus sophistiqués, comme par exemple le plein incliné pour bébé. C'est vraiment des produits qui sont faits systématiquement avec du polyester ou des matières synthétiques. Parce que pour faire une forme d'inclinaison, c'est vraiment difficile. Et nous, on a trouvé des systèmes où on combine en fait deux types de nappes de laine. On a des boules de laine et on a vraiment des systèmes novateurs pour faire ces produits tout en naturel.
L'avantage aussi, c'est que ça peut se laver puisque les oreillers s'ouvrent ou se referment par un système de fermeture éclair.
Voilà.
Donc la personne qui veut nettoyer son oreiller vide la laine de l'intérieur et le met en machine.
Alors exactement, elle peut effectivement, on n'est vraiment pas dans le jetable, on est dans le durable, donc on peut ouvrir l'oreiller, on peut sortir la laine, on peut laver la housse, mais c'est de la laine lavable, on peut aussi laver l'oreiller avec la laine. C'est vraiment très bien pour l'entretien, on fait ça une fois par an et on a un oreiller qui peut durer vraiment des années, quoi.
Vous disiez au début que vous travaillez pour l'hôtellerie, hein, c'est-à-dire que vous fournissez des établissements
voilà, ouais.
Pour la lingerie, par exemple.
Exactement, parce que bon, tous les hôtels, en particulier dans les hôtels qui sont plus haut de gamme, à 4-5 étoiles, ils ont, et puis d'autres, hein, ils ont une démarche de développement durable. Maintenant, ils font un effort pour réduire leurs déchets. Et il faut savoir quand même que dans la literie, les oreillers sont essentiellement en polyester. Et à chaque fois qu'un, par exemple, un hôtel qui a 100 chambres, quand il change ses oreillers, bah, ça fait quand même pas mal de déchets. Et là, on est sur un produit qui est entièrement compostable. La laine, on la remet au compost et ça fait pas de déchets, en fait. Donc, pour nous, c'est vraiment une démarche importante. Et donc, ces hôtels rentrent dans cette démarche aussi et donc, ils sont intéressés avec nos produits puisque ça permet de vraiment respecter leur engagement par rapport au développement durable.
Et alors, les prises de contact viennent de loin, par exemple ?
Alors là, oui, on travaille vraiment dans toute la France. On travaille par exemple, il y a des hôtels à Saint-Tropez, à Monaco, dans la région Rhône-Alpes, à Paris. Vraiment, non, là on est en train de développer ce secteur et on travaille avec tous les hôtels.
Donc une société en croissance
Là oui, on démarre, hein, donc on a vraiment bon espoir que ça va bien fonctionner. Hein.
Et alors ça s'appelle Croquatou, pourquoi ?
Alors on a deux marques en fait, on a une marque, parce que Croquatou, c'est pour les enfants. On a une gamme de puriculture bio. Donc Croquatou, ben, c'était un nom sympa, on a trouvé. On a un petit personnage aussi qui est ici, voilà. Donc c'est lui, en fait.
Et
donc,
qui a été créé par vous ?
On a travaillé avec un graphiste, hein, qui nous a fait ce personnage. Donc Croquatou, c'est la gamme de puriculture. Et puis sinon, on a la marque Revolana. Alors ça, c'est pour tout ce qui est donc, les oreillers pour l'hôtellerie, les coussins déco, les bouillottes, voilà. Les coussins de méditation, donc ça c'est la marque qu'on a développée donc pour les adultes, voilà.
Et vous faites des couvertures aussi, je pense.
Alors ouais, c'est la couette, on a la couette en laine pour enfants, on a les couvertures en coton bio.
Ça tient bien la chaleur.
Ouais. Ça c'est vraiment superbe. Ouais. Hein. Et puis l'avantage de la laine vraiment pour tout ce qui est oreiller, plan incliné, c'est que on transpire pas, c'est un produit qui respire. Là aussi un produit, c'est vraiment intéressant pour ça c'est le coussin de méditation et on arrive à. C'est vraiment très difficile à faire, en fait, à une fermeté très, très importante, avec que de la laine, en fait, à l'intérieur. Et on a un système de remplissage aussi qu'on a bien travaillé. Donc, on a même déposé un brevet, en fait.
C'est un remplissage par une machine
créée. Non, c'est artisanal, on le fait à la main. On fait le remplissage fait à la main. Mais bon, on utilise toujours ces deux types de laine. On a un système comme de ressort, en fait, qui fait que ça reste... C'est totalement plat, en fait, il n'y a pas de capitonnage comme on fait l'habitude avec la laine, c'est une surface plane, mais c'est très ferme.
Oui.
Donc,
c'est vrai qu'au toucher, c'est vraiment ferme.
Hein. Ah oui, donc pour la méditation ou pour
un coussin. Ça pèse combien, justement, un petit coussin comme ça, là, de 40 cm de diamètre.
Il doit être à 700-800 grammes, je pense.
Vous avez un site internet ?
Bien sûr, oui, on a chaque marque a son site, donc on a des sites de vente en ligne, donc croquatou.fr, on a revolana.fr. Et notre société s'appelle Ecovolve, donc on a aussi le site de la société.
Là, vous êtes ici avec votre stand pour vous faire connaître au niveau de l'écosociologie, par exemple ?
Oui, pour nous, c'est d'aller à la rencontre des gens qui sont sensibilisés en fait, à cette thématique du développement durable et du bio. On fait, on démarre, c'est difficile de se faire connaître, alors on a besoin vraiment d'aller à la rencontre des gens. Donc on fait des journées d'animation dans les magasins bio, par exemple, et puis on fait un peu des foires, des salons... pour faire connaître nos produits, voilà.
Et vous avez des échanges avec des personnes qui traitent justement, qui travaillent la laine ou il n'y a pas de moyen, par exemple, à l'avenir d'essayer de fédérer des activités ou créer une synergie là-dessus autour de ça.
On peut certainement, on essaye, il y a des associations donc, par rapport au travail de la laine, on travaille avec eux aussi, on va vraiment essayer effectivement de développer le secteur de la laine en France parce que c'est vraiment, il y a vraiment des choses à faire. La laine, il faut savoir, la plupart du temps, les agriculteurs la jettent, c'est un sous-produit animal en fait, c'est pas du tout une fibre qui est bien valorisée. En fait, c'est vraiment la fibre artificielle synthétique qui a tué la laine, puisque bon, elle est moins chère, elle est plus pratique. Mais bon, elle a beaucoup d'inconvénients au niveau environnemental, au niveau même confort, santé. Donc la laine, je pense, va revenir en force.
Optimiste.
Optimiste. C'est ouais.
Bon, tant mieux avec les temps qui courent.
Ah, c'est bien. Ça sert. Ouais. Voilà.
Lionel, merci.
Et vous, madame, si je peux me permettre, vous, vous vendez du fromage de chèvre?
Moi, je vends du fromage avec mon fils, oui.
Et d'accord. Et vous fabriquez, c'est ça, depuis longtemps?
Ça fait 4 ou 5 ans, à peu près. Parce qu'on n'est pas du coin non plus. Enfin, on est du Diwa, mais on n'est pas du Diwa non plus, on est du Midi. Je suis arrivé en 72, dans le Diwa. Et puis après, mes enfants se sont rapprochés, mais il y a une dizaine d'années, quoi.
Vous avez vu les choses évoluer un peu dans le Diwa?
Non, pas beaucoup. C'est encore la campagne, hein, le Diwa. Comment dire, comme dit madame, on est encore à la campagne. Et donc c'est une petite bourgade, c'est pas une grande ville. Hein.
Non, c'est une petite ville, voilà. Il y a 4400 habitants.
C'est une petite ville, oui. Enfin, nous, on ne sait plus, là, mais on est resté. On est venu en promenant et puis on y est resté, quoi.
Vous êtes tombé amoureuse du paysage.
Le Glandas, tout ça, c'est merveilleux.
C'est beau, hein.
Ouais. Et vous aussi, vous référez ces montagnes avec des espèces de silhouettes allongées, humaines?
Ça arrive, oui. Oui, oui. Ou animales, ou... Il y a beaucoup de choses qu'on... Enfin, disons qu'on se dit, tiens, ça ressemble à une telle chose. Si, c'est très beau.
D'ailleurs, ici, là, on
Le Vercors, c'est merveilleux. Hein. Ah, c'est...
Ici, là, on appelle aussi l'oreille, parce que la forme du rocher, c'est justement la forme d'une oreille.
D'accord.
Et je vous remercie.
On a de la chance de vivre dans un beau pays comme ça.
Voilà. Oui.
Profitons-en.
Voilà.
On essaie.
Murmurer à l'oreille.
Oui, c'est la radio.
Ça, comment dire, on voit un petit peu le circuit court, non pas tout Carrefour, tous ces grands magasins et tout. Puis bon, on se lie d'amitié aussi avec les personnes qui travaillent. On apprend comment elles travaillent, on apprend les circuits. Moi, je trouve que c'est très, très bien.
Vous voulez vous présenter et vous faites quoi parler. Mais sinon, vous êtes...
Je suis à la retraite.
Oui, d'accord. Mais vous faites quoi, justement, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ici?
Eh bien, ici, bon, bah, je viens, j'ai visité les stands. Je trouve que c'est quand même varié et tout. Mais voilà, quoi. J'apprécie.
Et moi, je ne connais pas ce pays. Hein. Nous, on vient du Diwa. Et on a cette montagne qui sépare le col de Cabre, là. Et donc, comment vous percevez la vie ici? Comment évolue-t-elle au niveau de la société? Comment se passent les choses ici, localement?
C'est calme, mais bon, ici, c'est un peu une autre vie, une autre façon de vivre. On se pose, bon, c'est pas comme en ville. Hein.
Le pays ici, comment s'appelle-t-il?
C'est le Buëch. Ça permet, ben, pour les enfants, pour ceux qui connaissent pas justement la campagne et tout, ça permet un peu de voir le circuit. Moi, je me souviens, bon, ben, je travaillais dans une ville, et quand on demandait aux enfants d'où vient le lait, ils nous disaient de Carrefour.
Oui.
Ils savaient même pas que le lait venait de la vache. Bon, ben, ici... quand on vit à la campagne, on le découvre, quoi, on le fait
comme
découvrir aux enfants. Voilà.
Et oui.
C'est toutes ces petites choses. Bon, on peut en sourire, mais bon, voilà. C'est un plus.
Voilà.
Je trouve qu'on vit proche de la nature et on apprécie. C'est une vie tranquille, un peu plus douce qu'en ville.
Bonjour. Alors, je voudrais savoir, vous êtes en avant-poste pour savoir si la planète va bien. Est-ce que la planète va bien?
C'est très compliqué, tout à fait. Surtout nous, on est les premiers touchés en apiculture. Donc nous, aujourd'hui, ici, on a un problème climatique dans les Hautes-Alpes. C'est notre premier problème. Les abeilles sont complètement désorientées. On n'a pas trop de mortalité par rapport aux maladies parce que nous avons de la pluriculture. Donc c'est plus simple pour nous. Mais on a vraiment un problème climatique de sécheresse qui est là et qui nous pose beaucoup de problèmes, en effet.
Vous produisez du miel, pour ne rien cacher, et je crois comprendre que c'est du miel qui vient de hautes altitudes.
C'est ça, vous avez le miel de montagne, donc qui est le principal de ma production, puis vous avez du miel de haute montagne, et en plus le pollen, qui est un bienfait pour nous, l'humain, et pour les abeilles, bien sûr.
Et ça fait combien de temps que vous faites justement de l'apiculture?
Ça fait 7 ans. pollinisateur maintenant, et 5 ans que je suis en professionnel, mais 7 ans que je travaille avec les abeilles.
Et vous avez eu une formation dans le domaine par une institution, une école, ou vous avez appris sur le tas?
Alors j'ai un peu appris sur le tas, et en effet après j'ai fait une formation, un BPREA, c'est un brevet responsable d'exploitation agricole, qu'on fait un peu de partout en France en fait, et qui nous aide et qui nous apprend à gérer notre entreprise tout simplement. Et après j'ai fait de l'apiculture avec un éleveur d'abeilles. Pourquoi? Parce qu'en fait l'élevage c'est la base de nos ruches, c'est on connaît mieux nos abeilles, donc du coup ça permet de mieux faire du miel, de soigner un peu mieux nos abeilles et puis de voir si on a un problème directement.
Et les abeilles, vous les faites participer aussi à un peu l'agriculture locale pour la pollinisation, je suppose?
Tout à fait, c'est la base de la vie en fait sur la Terre. Hein. C'est vraiment, comment dire, en fait elles font 80% de la pollinisation sur la Terre. Donc si on n'aurait plus d'abeilles, ben, on manquerait beaucoup d'aliments et on mangerait plus que de la viande et ça serait très très dur pour nous.
Voilà, et surtout que la viande est néfaste.
Tout à fait, tout à fait.
Et je voulais savoir, donc, si c'est un animal... un insecte qui traite de la pollinisation, ça veut dire que vous déplacez des ruches dans certains endroits?
C'est ça, on est obligé de faire de la transhumance. On transhume comme les moutons, en fait, c'est ça, sauf qu'on transhume nos abeilles. On est les bergers des abeilles. Et en fait, vu qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de fleurs, même dans nos Hautes-Alpes, on est obligé de transhumer pour que nos abeilles aient assez à manger.
Est-ce que l'avantage d'être en Hautes-Alpes, ça veut dire aussi moins d'agriculture intensive des terres, une flore beaucoup plus saine?
Beaucoup plus saine, beaucoup de diversité florale, ce qui est important pour nos abeilles, parce que c'est ce qui nous soigne nos abeilles, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que les gens, ils savent pas trop ça, et le fait qu'on ait une diversité florale est important pour le bienfait de notre abeille. Le bien-être de notre abeille.
En dehors des problèmes climatiques, il y a d'autres facteurs aussi qui sont néfastes. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de...
Alors nous, on a de la chance quand même un petit peu parce qu'ici, on est protégé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'apiculteurs qui rencontrent ce problème. Donc les produits chimiques, hein, bien sûr, les pesticides. Vous avez les antennes aussi, les antennes relais qui les désorientent aussi. Il y a beaucoup de petits problèmes, plus le dérèglement de l'abeille par rapport au climat. Vous avez plein de petits problèmes où nous, on est obligés de subir. Et on est, comme je dis, on est vraiment les premiers touchés dans l'agriculture.
Il y a eu des études là-dessus, sur la nocivité des antennes sur les
abeilles? Un petit peu, mais on n'est pas pris au sérieux. Le problème, c'est ça, c'est qu'on se bat contre un mur. Quoi. On n'est pas pris au sérieux et du coup, c'est pas évident pour nous. Et même si on essaye de voir par rapport à essayer de se battre contre tout ce qui est produits chimiques, même les antennes ou quoi que ce soit, ils vont modifier quelque chose et on rebelote, on est reparti pour 10 ans de combat. Quoi.
Votre prénom, c'est comment, pardon?
Nolier Isabelle, et je représente le rucher d'Isabelle. Voilà.
Qui est établi où exactement?
Alors aujourd'hui je suis à Ventavon, au Villard de Ventavon, dans le 05, pas loin de l'Aragne.
Alors le 05 c'est le département
des Hautes-Alpes, tout à fait.
Vous en vivez bien de cette activité?
C'est dur, c'est très dur, ouais, c'est très dur parce que c'est vu qu'on n'a pas d'aide, on n'a pas grand chose, et puis on n'est pas pris au sérieux en tant qu'apiculteur. Ouais. En fait, c'est très très dur de se tirer un salaire, c'est très dur de que les gens. Et puis il y a beaucoup de concurrence, donc il y a beaucoup d'amateurs, il y a beaucoup de gens qui achètent leur miel et qui le revendent. Du coup, on se retrouve dans une difficulté au niveau financier qui est là.
On peut parler de concurrence entre apiculteurs actuellement?
Moi, je dirais que non. Il y en a qui disent oui, parce qu'en fait, il y a plus de consommation au niveau du miel que de production. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas... Pour moi, il n'y a pas de concurrence. Mais il y a quand même au niveau du taux, au niveau des prix du kilo qui est différent. Du coup, ça fait de la concurrence. Et les gens, ils sont là, ils sont en train de toujours un peu de chipoter par rapport à ça. Mais ce qu'on essaye de... Moi, j'essaye de faire comprendre, c'est qu'on est des jeunes apiculteurs ou même apiculteurs professionnels. Il faut qu'on se tire un salaire qui n'est pas évident.
Il y a une demoiselle là, qui avait un stand qui disait « Heureusement que nous vivons en France ». Est-ce que c'est d'accord avec ce terme? C'est-à-dire, à défaut d'avoir une rentabilité avec les abeilles,
Vous avez quand même une aide sociale pour pouvoir vivre, non?
Pas du tout.
Ah donc, c'est vraiment, vous tenez vraiment à ça?
Ouais.
Et donc c'est très difficile. Hein.
C'est très dur, ouais, c'est très dur.
Est-ce qu'il y a une espèce de corporation, ou une fédération, ou une ramification d'apiculteurs, d'entraide?
Tout à fait, il y a le syndicat des apiculteurs, il y en a deux dans les Hautes-Alpes, moi je dépends des apiculteurs alpins. Et oui, en effet, il y a des informations, de l'entraide. Si on se fait voler des ruches, comme moi, ça a été mon cas, et ben, il y a des gens qui sont là pour vous aider et puis vous soutenir dans votre combat. Quoi.
Et alors, l'activité quotidienne de la ruche, c'est-à-dire, comment ça se passe?
L'activité de la ruche, c'est-à-dire?
Ben, pour produire le miel, quelles sont les activités qui sont autour du miel, par rapport aux abeilles, l'entretien des ruches, la fabrication des ruches peut-être aussi?
C'est beaucoup de travail. Alors aujourd'hui, on se fait livrer des ruches en kit qu'on construit nous. Après, donc moi je fais même mes essaims.
Les ruches en kit, elles viennent d'où?
Pologne. ouais, c'est pas du bois d'ici. Non, le bois est trop cher. Il y en a qui arrivent quand même un petit peu, mais le bois est très très cher. Même il y a des gens, moi j'avais pensé de me fabriquer mes ruches directement, mais finalement le coût est trop cher et c'est plus facile de les acheter en kit. Et puis après, je les visse moi-même, je les peins moi-même et tout ça. Mais c'est vrai que je fais du travail, mais c'est pas évident. C'est pas évident.
C'est quel bois en général? Il n'y a pas de préférence pour le bois?
Non, ça dépend. Avant c'était du hêtre, je crois, et aujourd'hui je ne sais plus ce qu'ils utilisent.
Ça m'a l'air d'être du pin, hein, à vue d'œil comme ça. Oui.
Vitor, c'est plus pareil. Avant c'était attenant, aujourd'hui c'est collé, c'est plus pareil. Tout change, quoi. Voilà. Puis après il y a les essaims que nous on fabrique, où j'achète des rennes à un apiculteur professionnel qui s'appelle Gérard Bianco. Qui est éleveur, donc qui fait lui-même ses rennes. J'ai foi en lui, donc du coup, je sais que j'ai toujours des rennes de qualité. Du coup, je crée mes essaims parce que c'est lui qui m'a appris. Donc, je crée des essaims. Et après, ces essaims, ça me permet d'avoir d'autres miels, d'autres qualités, et puis de renforcer mon cheptel parce qu'on perd beaucoup de ruches quand même chaque année.
Et alors, comment vous retrouvez aujourd'hui ici, à Tous en Botte?
Alors moi, ça fait longtemps que je suis au début, c'était une association. J'étais avec l'UHCOP, qui était une association au début. Et après, ça s'est transformé en société. Et en fait, j'ai toujours été là, j'ai travaillé pour eux. Et puis, je trouvais que c'était intéressant de manger bien à des prix raisonnables et pas à des prix fulgurants comme on peut retrouver dans des magasins bio où ça devient un peu de l'arnaque au niveau du consommateur. Et là, le fait d'avoir des prix raisonnables, nous, on essaye d'avoir des prix raisonnables envers tous, et ça permet de que tout le monde puisse en profiter, de la petite gamme aux personnes un peu plus aisées. Ouais.
Et alors, de l'ordre de prix, c'est combien à peu près un pot de combien, 250 grammes là?
Là, vous avez 500 grammes. Ouais, 500 grammes. Moi, je suis à 7,50 parce que je suis une jeune exploitante et il faut que j'arrive à tirer mon salaire, quoi. Et le salaire est pas très de moindre. Hein. C'est pas un salaire que c'est pas un SMIG. J'ai pas de SMIG. Hein. Là, ça tourne envers 300 à 400 euros par mois.
Est-ce que... Donc ça fait à peu près 7 ans et 5 ans que vous avez votre propre exploitation. Est-ce que vous pensez aussi peut-être moduler le produit en produits dérivés, c'est-à-dire fabriquer des bonbons, des choses qui puissent éveiller aussi l'appétit vers le miel, essayer de faire connaître le miel, parce qu'il y a le miel aussi.
Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'apiculteurs qui le font, donc moi j'aime bien diversifier. Du coup, je préfère travailler avec le pollen et faire connaître le bienfait du pollen aux gens, tous ces apports en protéines, lipides et glucides, toutes ces vitamines que peut nous faire du bien à nous.
Et d'ailleurs, l'hydromel.
Tout à fait, c'est une des premières boissons, même la cervoise se faisait avec le miel.
Il y en a à peu près vers chez vous, justement?
Il n'y en a pas beaucoup, non. L'hydromel, c'est plus... C'est plus en Bretagne, le souchène, ils appellent ça, tout à fait. Mais la base, c'est vrai que la première des choses, l'alcool a été fait avec le miel, quoi, là, à la base. Et c'est vrai que, bon, nous, ici, on n'a pas trop, parce que c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai essayé un petit peu pour moi-même, hein, et c'est très, très, très compliqué. C'est un autre corps de métier dans l'apiculture.
Et alors, pour avoir une idée, vous possédez combien de ruches?
200 ruches.
200, et ça vous fait une production de combien de kilos de miel?
Alors, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais normalement, avec 200 ruches, dans une bonne année, on peut arriver à 6 tonnes. Si on travaille bien avec nos abeilles... Aujourd'hui, vu avant ça, je parle, hein, qu'on pouvait faire 6 tonnes. Aujourd'hui, on arrive à 4 tonnes et dans une mauvaise saison, on arrive à 1 tonne 5.
Ah oui, c'est...
Voilà, donc c'est, il y a déjà... C'est désastreux, ouais. Et ouais. Il faut qu'on vive avec ça toute l'année.
Ouais. Donc, ouais, c'est beaucoup de travail, hein, quand même.
C'est beaucoup de travail, c'est très physique. Une ruche pleine peut arriver à 80 kilos.
Ouais, c'est-à-dire que tous les jours, vous avez des ruches à aller vérifier, à aller récupérer le miel. D'ailleurs, le miel, combien de temps vous, par ruche, ça prend pour aller avoir... une quantité récoltable?
Ben, ça dépend, ça peut aller très vite, comme une semaine, comme ça peut prendre des mois.
Oui.
Suivant le temps, c'est parce que nous, on est liés à la pluie, au vent et puis au soleil, quoi. Et aux fleurs, s'il n'y a pas de fleurs, ben, il n'y a pas de miel. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de miel. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de miel. Donc c'est vrai qu'on est un peu liés au temps. C'est un petit peu un métier au petit bonheur, la chance, comme on dit.
Et vous utilisez le miel pour vous soigner aussi?
Tout à fait.
Alors comment vous faites? Vous faites quoi? Ça soigne quoi, le miel?
Eh ben, c'est un antiseptique, un désinfectant et un cicatrisant. Donc si vous avez des plaies, déjà sur au niveau cutané, vous pouvez soigner toutes vos plaies comme ça. Ça va 10 fois plus vite au niveau des soins. Vous pouvez aussi au niveau des problèmes de gorge, hein, tout ce qui est bronchite. Quelqu'un qui mange du miel, c'est très bon pour lui. Puis vous avez le pollen, qui est très bon pour la santé aussi parce que c'est un restructurant d'organisme, hein, et un équilibrant, j'allais dire. Et après, vous avez la propolis aussi, qui est un bienfait. La propolis, c'est très bon pour tout ce qui est bronche et puis gorge. Et vous avez aussi la gelée royale. En fait, la gelée royale, on la récolte dans les cellules royales. Il n'y a que la reine qui est nourrie qu'à la gelée royale, tout le temps, jusqu'à la fin de son éclosion. Donc du coup, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait des cupules avec des naissances de reines. Et donc les éleveurs de rennes font de la gelée royale parce que bah, du coup ils tirent et c'est très compliqué. C'est encore un autre corps de métier dans l'apiculture. Ce n'est pas ma spécialité. Mais voilà, c'est très compliqué à faire.
Est-ce que des collectivités font appel à vous justement pour...
Pas trop. Hein, pas non, trop. Pas Moi je suis tout. Une jeune exploitante donc du coup je ne suis pas trop connue. Mais c'est vrai que bon, il y a des quand même... Je ne sais pas si vous connaissez Happyland. Happyland, c'est une très belle structure. C'est un musée de l'apiculture.
Oui.
Donc, qui est très bien parce que bah, pour les enfants, ça les sensibilise. Ils ont un vivarium avec des abeilles, ils ont un film, ils ont beaucoup de trucs. Ils sont très, très intéressants. Et ça permet aux gens de connaître. Et puis, ils font aussi des travaux au niveau des gens qui sont aveugles, donc des handicapés. Et ça leur permet de sentir, de toucher et d'avoir un autre aspect de la cire et du miel et tout ça. Et en effet, ben, c'est pas évident hein, aujourd'hui de pouvoir sensibiliser les gens parce qu'on a tous, beaucoup de gens ont peur des petites bêtes qui volent, quoi, comme on dit.
Ouais, le pollen, quand même, les abeilles, c'est mignon quand même.
C'est
ça.
Mignon.
C'est un petit pelage.
Mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre une guêpe et une abeille.
Oui, moi je la fais hein, parce que j'ai senti les piqûres, hein, c'est pas la même.
C'est pas la même,
non. Tout à fait. Voilà. Quelle est la différence justement entre le miel de supermarché qui est très liquide, qui passe dans une petite pipette impeccable pour le consommateur pressé qui veut sa biscotte bien. Bon, et celui que vous vendez qui a l'air très épais, compact, c'est dû à quoi ça?
Alors que je vous explique. Alors déjà, un toute fleur, normalement, il n'est jamais liquide. À part si le seul miel qui est liquide, c'est le miel de tilleul, de châtaignier et d'acacia. C'est les seuls miels qui restent liquides. Si un toute fleur est liquide, c'est qu'il a été défigé, c'est-à-dire qu'en fait, il a été chauffé. Donc, perte de vitamines, vous perdez tous les bienfaits du miel, en fait, parce qu'il a été chauffé. Moi, ce que je fais, je travaille tout simplement avec, c'est que je ne le fais pas défiger, je ne fais pas chauffer, et les consommateurs le mangent comme ça. Voilà, tout simplement. Et il cristallise parce que c'est son mode de conservation. Les gens croient que c'est parce qu'on a mis du sucre, mais pas du tout, c'est son mode de conservation. Et quand les gens achètent du miel liquide, ça peut être très dangereux parce que souvent c'est du glucose. Et c'est pas du miel, c'est pour ça qu'il est liquide. Et il y a beaucoup de fraude par rapport à ça, et il faut vraiment se méfier. C'est pour ça que c'est important, je pense, d'arrêter d'acheter à aux personnes qui marchent en grande industrie, en fait, hein, tout simplement. Il vaut mieux favoriser, perdre un peu moins d'argent, faut mettre un peu plus cher dans le produit, finalement, et avoir un produit de qualité et un bienfait pour nous.
D'ailleurs, quel est le sucre qu'on trouve dans le miel? Est-ce qu'il a un nom?
Vous avez
comme celui des fruits, c'est le fructose. Le miel, c'est quoi?
Saccharose, fructose, vous avez un peu de tout. Et c'est ça qui fait la différence entre le... Par exemple, vous avez le miel de châtaignier, où il y a plus d'apport au niveau fructose, hein, si je ne me trompe pas, que je ne fais pas de bêtises. Et du coup, c'est pour ça qu'il reste liquide. Et après, vous avez la saccharose, vous avez tout, en fait, tout ce qui est... au niveau des sucres, vous avez plein de trucs. Et du coup, bah, ça permet de... Ça différencie le miel, voilà, tout simplement.
optimiste à l'avenir, pour l'avenir ?
J'ai un peu peur, ouais. J'ai beaucoup peur pour l'avenir de nos abeilles.
C'est dû à quoi, cette peur ?
Bah, le fait que les abeilles vont mal et puis l'humain va mal, donc du coup, bah, y a plein de choses qui font autour, quoi. L'abeille commence à mourir de plus en plus. Nous, on a du mal à tenir nos abeilles, quoi.
Ouais, je peux reconnaître que Adi est arrivé depuis 5 ans. Les deux premières années, j'ai vu énormément d'abeilles. Et là, depuis 3 ans, les seules abeilles que je vois, ce sont celles qui sont posées par terre, qui sont faibles ou qui sont au piteux état. Voilà. Et je crois qu'il n'y a plus d'apiculteurs dans le Diwa. Moi, j'en ai rencontré un il y a 7 ans quand j'étais venu une fois pour visiter. Et à l'époque, déjà, la personne avait perdu les 3/4 de sa production de ruches. Donc, il y a une disparition. Puis,
c'est dur, c'est très dur.
En mousserine aussi, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais les frelons asiatiques sont vraiment un fléau.
C'est un gros fléau, ouais, tout à fait. C'est un très gros fléau, et puis on n'arrive pas à le combattre. La seule façon qu'on utilise de les combattre, c'est de mettre des pièges à guêpes. Sauf que bah, ça suffit pas, quoi. C'est vraiment un problème. Mais on a de la chance encore dans le 05. On est protégé par le froid et le frelon asiatique ne supporte pas le froid. Mais voilà. Il est dans les limites, hein. Il est au 0,4.
Voilà, parce que vous, c'est une question d'altitude, exactement. C'est ça. Si un frelon doit être limité à l'altitude.
C'est ça, tout à fait. Donc c'est vrai que nous, pour l'instant, on est encore protégé. Mais combien de temps ça va durer, ouais, puisque le climat change.
Et puis même les insectes s'acclimatisent aussi, hein, s'adaptent.
Tout à fait, s'adaptent. Et puis là, vu comment ça se tourne, ça va très très vite. Parce qu'en une année, il a commencé à prendre une grosse partie de la France.
Et qu'est-ce que vous pensez de ces entreprises américaines qui ont commencé à créer des abeilles en robot ?
C'est vraiment horrible. C'est horrible, c'est vraiment un fléau pour l'abeille, je pense. C'est une connerie monumentale, je vais dire, en restant poli, mais c'est inhumain. De faire ça, c'est inhumain. Restons dans le naturel, restons dans l'abeille, protégeons notre abeille, arrêtons de modifier génétiquement tout ce qu'on touche, quoi. Il faut rester aux choses normales et naturelles, je pense.
L'humain est un apprenti sorcier et c'est sa nature.
Malheureusement, ouais. Malheureusement, mais le problème, c'est qu'on va détruire tout ce qu'on touche, quoi.
Ouais. Faut-il lui piquer sa baguette magique ?
Ça serait bien, je pense, ouais. Je pense qu'il faudrait arrêter les bêtises et regarder ce qu'on a autour de nous. Arrêter d'essayer de modifier, de créer et de contrôler tout ce qu'on a. Nous, l'abeille, on ne la contrôle pas en tant qu'apiculteur. On la dirige. On essaye de la diriger au maximum. Et ben, ça marche pas tout le temps. Hein. Et puis, je suis très contente que ça marche pas tout le temps parce que ben, du coup, ben, ça permet de trouver d'autres solutions. Elle nous apprivoise, en fait. Voilà.
Mais la nature aura le dessus, je pense, forcément, à un moment donné.
Il faut. C'est important parce que sinon, là, on va à notre destruction. Hein, la destruction de l'abeille, destruction de l'alimentation, on va à la destruction de tout. Quoi. Il faut vraiment faire quelque chose, je pense, pour nous. Pour nous, pour les abeilles, surtout pour nous. Et puis, les abeilles sont là pour nous protéger. Maintenant, c'est à nous de la protéger, je pense. Voilà.
Isabelle, comment on peut vous retrouver ? Vous avez un site internet ou un blog ? Des coordonnées pour...
J'ai un site internet, mais j'ai pas trop le temps. Le truc, c'est qu'on n'a pas trop le temps d'y aller.
Oui.
Mais par contre, après, oui, voilà, je suis sur les marchés souvent. Parce que le truc, c'est qu'on n'a pas le temps, quoi.
Et le marché, alors, il couvre quel secteur, justement ?
L'araignée. Et après, moi, je suis dans des magasins à Gap, donc dans deux magasins. Vous avez la potière et le tapissier qui a mon miel. Vous avez aussi maintenant un crémier qui a récupéré mon miel, qui est très bon d'ailleurs. Qui a des très bons fromages locaux et d'autres non locaux, mais il connaît très bien son métier. Après, je suis à Buège Coopératif, bien sûr, où vous avez là toute une gamme de mes produits depuis des années. Vous avez aussi la Joue du Loup, Super Dévolu. Donc, je suis dans beaucoup de magasins, quand même dans les Hautes-Alpes. Hein. Je reste dans les Hautes-Alpes. Je promouvois les Hautes-Alpes au maximum.
Bon. Eh bien, Isabelle, merci.
Merci à vous.
Ambulation.